Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est pour la première fois à Blissettsville. Oh, la capitale mondiale de l'érable. Hey, ça, c'est quelque chose. Bien, on a déménagé dernièrement, moi et Marilyn. Puis ce matin, on a l'honneur de recevoir ma petite soeur Carmen. Et puis, mon beau papa, JP. Et puis, il y a Noiro qui nous regarde aussi sur la table de salon. Et puis, on veut saluer les gens sur Internet. On veut dire bonjour à Princesse Claudia, à Princesse Ruth, à Princesse Bulle, parce qu'elle veut qu'on l'appelle Bulle. Une fois que je l'agace, j'ai dit, hey, essaye le clown. Je l'appelle le clown. Parce que Bulle a fait un clown pour les enfants à l'église. Mais ceux qui ne nous connaissent pas, ils trouvent ça rough, mais c'est vraiment pour faire des blagues. Et puis, elle trouve ça bien drôle. Et puis, on veut saluer Nicole aussi, on veut saluer Lynn, on veut saluer toutes les gens qui nous écoutent sur Internet. On sait qu'on est en direct sur Radio Prédication, fait que on sait pas combien il y a de gens qui peuvent écouter. Mais on vous salue, la famille Chabot vous salue cordialement. Et puis, ce matin, on va commencer par prier, évidemment, et puis on va rentrer dans le message mais je pense qu'on va avoir assez de matériel encore aujourd'hui. Et puis, ça va terminer la révision d'attente d'assignation. On dit ça, mais peut-être qu'il va y avoir encore un petit quelque chose qu'on n'a pas vu, hein, le sacrificateur, ma petite sœur, elle l'a écouté, hein, parce qu'on avait JP, mais il m'avait dit ça aussi. Fait que peut-être mercredi, on va voir le sacrificateur. On va commencer à le voir. Puis ça va nous donner une idée. Qu'est-ce que Dieu s'attendait de ces sacrificateurs? C'est important, hein? Ça va nous donner une image à nous. De la volonté de Dieu pour nos vies, parce qu'on est des sacrificateurs, hein, selon ce que les Écritures disent. Il faut se l'approprier par la foi. Amen. Donc, on veut te remercier, Seigneur, pour la chaleur ce matin. On veut te remercier pour les provisions. On veut te remercier pour le privilège qu'on a de pouvoir être ensemble, en famille. Parce que c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Si tu n'aurais pas permis qu'on soit ensemble ici, on n'aurait pas pu être ensemble ce matin. Mais tu nous permets, dans ta grâce, de pouvoir étudier ta parole pour mieux te connaître, Seigneur. Et puis, on veut vraiment entrer dans ta présence aujourd'hui. On veut que tu viennes nous enseigner avec ton Saint-Esprit d'amour, qui vient d'ouvrir les yeux de notre cœur, qui enlève ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, qui le remplace par ta portion, Seigneur Jésus. Et parce qu'il parle de toi, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de Jésus. Et puis, Seigneur, on veut te réclamer cette promesse que tu as dit, comme on fait toujours, là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai parmi eux. Et puis, Seigneur, ce matin, on te demande cette promesse pour nos vies. On te demande de venir parler à nos cœurs, de nous enseigner. On veut te louer, Seigneur, on veut t'adorer ce matin, on veut proclamer que tu es notre grand Dieu et que tu règnes sur nos vies. Et puis, on veut te remercier pour ce que tu fais dans notre famille, on veut te remercier pour toutes les bénédictions et les grâces qui sont sur notre famille présentement. Et puis, on te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen! Et puis, on avait fait une bonne révision. La semaine passée, Carmen a dit, je l'ai écouté trois fois. J'ai pas misère à te craindre, puis c'est pas parce que je veux prétendre que je suis meilleur ou je suis bon. Là. C'est juste parce qu'il y avait le Seigneur nous avait donné beaucoup de matériel sur les images qu'on a vues. Là, évidemment, on fera pas une révision de la révision, là. Parce qu'on finira plus de faire des révisions. Mais on va continuer aujourd'hui, puis la semaine passée, on avait vu plus les meubles, l'ameublement. Aujourd'hui, on va voir la tente d'assignation. On va faire la révision de la tente d'assignation. Quelles sont les images qu'il y a là-dedans? On ne pourra pas aller en profondeur là, dans chacun des détails, mais on va essayer de voir ce qu'il y avait de plus important. Puis qu'est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Puis on va saluer notre petite sœur Hélène aussi. On sait qu'elle n'a pas Internet, mais elle vient le mercredi. On la voit le mercredi. Et puis, on ne veut pas être familier avec les gens parce que l'Église, c'est les gens. Hein? C'est pas des bâtiments, c'est pas des gros shows, c'est pas des gros spectacles. L'Église, c'est des gens. Et puis l'Église, c'est Christ qui est manifesté à travers nos vies, entre nous. Donc, on a à cœur de saluer tous ces gens-là, puis on les aime beaucoup parce que ce sont des enfants de Dieu. Et puis qu'on peut sentir la présence de Dieu dans leur vie. Donc, le tabernacle, alias la tente d'assignation. Alias la maison de Dieu. Alias la maison de l'Éternel. J'en oublie. Il y en avait sept ou huit, là. Hein? Sept ou huit appellations pour C'est le tabernacle que Moïse et les fils d'Israël ont construit au désert sur l'ordre de l'Éternel. C'était la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Et puis on sait que c'est la préfiguration de ce qui arrive aujourd'hui dans le chrétien. C'était le mystère caché de tous les temps, que Dieu vienne habiter dans l'homme. Personne ne savait ça. Ça a été révélé, ça a été mis, ça, tous les prophètes auraient aimé savoir ça, mais il n'y a personne qui savait ça. Et puis, c'est pour ça que l'image que Dieu a donnée, c'est très instructif pour nous, parce que Dieu fait rien pour rien. Et puis s'il a donné cette image-là, c'est parce que ça nous enseigne des choses. Aucun détail ne devait être dicté par les hommes dans le tabernacle. Tous les détails ont été dictés par Dieu, parce que c'était la maison de Dieu. Et puis, ça ne devait pas laisser rien à l'imagination de l'homme. Il fallait que ce soit exactement ce que Dieu... Il fallait que tout soit selon la pensée de Dieu, et puis que tout corresponde à la sainteté, à la majesté de Dieu. Pour cette raison, quand Moïse alla construire le tabernacle, il fut averti divinement de faire comme il lui avait été montré sur la montagne. Le Seigneur lui a montré. Pour être sûr que c'est comme ça, je veux que tu le fasses. On voit ça dans Exode 25-40. Et puis... ça avait une grande importance parce que le tabernacle était une figure exacte des choses qui sont dans les cieux. Hein, on a parlé de ça. Le tabernacle qu'on voit là, on va le voir en haut. Il est dans les cieux. C'est spécial. Donc, c'est spécial de voir que ce qu'on est en train de faire, moi ça me bénit tout le temps, on ne veut pas être familier avec ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est éternel. C'est les seules choses qu'on fait. Tu sais, on se réunit deux fois par semaine. Puis c'est les seules choses qu'on fait, la majorité, qui vont porter dans l'éternité. Tout ce qu'on est en train de faire va être éternel. Ce qu'on est en train d'apprendre, ça va nous servir pour l'éternité. C'est spécial, hein? Donc, c'est pourquoi l'étude de l'image, de ces images, c'est une source de bénédiction pour nous, les croyants. Parce que vraiment, ça vient, c'est des choses que Dieu a laissées pour les gens de sa maison. Pour nous apprendre. Mais ça, vous savez que c'est révélé juste à ses enfants. C'est pas révélé aux autres personnes. Et puis, il était formé de trois parties, vous vous souvenez? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans la description des objets, les écritures, que nous donnent les écritures, le Saint-Esprit commence par nous donner l'arche, hein, vous vous souvenez de ça? Il a commencé par nous parler de l'arche. Puis on avait suivi vraiment la hiérarchie, là, vraiment dans laquelle, sauf pour les deux, le dernier message avant les révisions, et que j'avais sauté par-dessus le sacrificateur, parce qu'on savait pas si on voulait, finalement, on va y revenir au prochain message. Donc, il y avait l'arche de Dieu, le trône de Dieu, occupant le lieu très saint. Ensuite, on a vu le lieu saint, puis ensuite, c'était l'autel de l'Holocauste. Hein? Et puis on voit là le chemin parcouru par notre Sauveur. C'est notre Sauveur qui est venu vers nous, il est descendu dans le lieu très saint, il est venu dans le lieu saint, puis il est allé à l'Holocauste pour nous. Mais nous, ça nous a permis de faire le chemin inverse pour aller à Dieu. Est-ce qu'on voit cette image-là? Voyez-vous l'image? Donc, le Fils de Dieu est descendu dans la gloire suprême, s'abaissant jusqu'à la mort. La mort de la croix, donc, qui est l'autel d'Airain, ou ce qui représente l'autel d'Airain. Est une figure. C'est à la croix que nous voyons Dieu dans toute sa justice, parce que Dieu il a satisfait sa justice à la croix. Parce que on a un Dieu qui est juste. Hein? Donc, il fallait qu'il y ait un paiement pour le péché. Et puis, le paiement pour le péché, puis les péchés que nous commettons. Mais aussi, Dieu sauveur plein de grâce et d'amour, justifiant par le sang de la croix, quiconque croit et reçoit Jésus pour son sauveur personnel. Puis ça, c'est incompréhensible pour les gens du monde. Quand tu expliques ça aux gens du monde, là, que tu as juste à croire puis recevoir, ils sont pas capables de comprendre ça. Faut qu'il y ait une révélation du Saint-Esprit. Quand on témoigne à quelqu'un, si la personne n'a pas une révélation du Saint-Esprit, elle comprendra pas ce que tu es en train d'expliquer. Qu'est-ce que c'est croire à ça? Puis qu'est-ce que c'est ça, recevoir? Il sait pas. Il sait pas. Il l'a pas expérimenté. Fait que faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui fasse ce travail. Donc, l'Écriture parle ensuite du parvis en détail. On a vu ses dimensions. Et puis, il y avait une clôture qui formait l'enceinte. Et puis, souvenez l'image qui était, c'était du fin coton autour du parvis. C'était l'Assemblée des Saints. Spécial, hein, quand on étudie ça. Elle était haute de 5 coudées, suspendue avec des crochets d'argent, avec des baguettes d'argent, ce qui signifiait qu'ils ont été rachetés, l'argent. Et puis, dans lequel étaient fixés des piliers reposant chacun sur une base d'airain. L'airain, c'était le jugement. Le jugement était fait. Ça a été payé. Ces gens-là, le paiement a été fait. Il y avait 20 piliers de chaque côté, puis 10 en avant et en arrière. À l'Orient, il y avait une porte de 5 coudées. Attention, on ne se frappe pas en dessous de la table ici, s'il vous plaît, mesdames. Il y a une bagarre de sacoche en dessous. Donc, 5 coudées de haut, 20 coudées de large. Les rideaux étaient faits de bleu de pourpre d'écarlate, de fin coton. Un ouvrage de brodeur, comme pour les tentures, était fixé avec des crochets d'argent, encore une fois, baguettes d'argent, 4 piliers reposant sur leur base d'airain. Et puis, ça nous fait penser, la porte nous fait, pourquoi la porte était à l'Orient? Souvenez-vous. Le fils de l'Orient. Il est venu de l'Orient. On va voir ça dans la prophétie de Zacharie, qui a été repris en Luc 1, 78-79. Puis, l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Puis en Matthieu, où on voit ça aussi, en Matthieu 4,16, une citation d'Ésaïe 9,2 qui a été repris. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, c'était pourquoi la porte était à l'Orient. Ça signifiait notre Jésus qui arriverait par là. Donc, je suis en train de faire je crois. Donc, notre âme était dans les ténèbres. On était dans une mort morale, officiellement, avec la condamnation qui pesait sur nous. Mais Dieu a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. Alors, reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus a dit, je sais pas si j'ai au choix, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il a dit aussi, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 19. Donc, c'est plein d'images. Depuis le début qu'on étudie la tente d'assignation, c'est plein d'images. Toutes pointent vers Christ. Toutes nous ramènent tout le temps vers Christ. Considérons que la porte, formée par le magnifique rideau bordé, porté par les 4 piliers qui représentent les 4 évangiles, et atteste les gloires de ces personnes adorables qui nous ouvrent l'accès à toutes les bénédictions divines. Jean le déclare fils de l'éternel de Dieu, fils éternel de Dieu, le bleu, signifie l'origine céleste qui vient du ciel. Luc le présente comme le fils de l'homme, le pourpre, sa domination universelle en tant que roi, le pourpre et le violet, là, ça semblait du violet, c'était la couleur royale. Puis il y avait l'écarlate, le sang, le rouge qui était son sang, mais aussi, ça voulait dire aussi Marc qui présentait la gloire messianique. Il disait que c'est sa gloire messianique. Mais le rouge, c'est surtout le sang versé pour la rédemption, évidemment. Et puis, Marc le présente comme un serviteur. Le fin coton nous parle de sa pureté essentielle. Sa pureté qui avait été sans tache. Comme aussi de sa vie sainte, qui a été une vie parfaite, qui a eu pas de péché. Et pur en tant que serviteur. Christ était serviteur quand il était ici. Il était roi, on sait qu'il est roi, mais il est venu comme un serviteur. Et puis, ça nous parle sur notre vie à nous, à quoi qu'on devrait être appelé à être des serviteurs. C'est servir les uns les autres. Donc, lors de la transfiguration, ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur comme de la neige. Tel, il n'y a point de foulon qui puisse aussi ainsi blanchir. Marc 9, 3. Ma fille arrive, mais je pense qu'elle n'est pas de moi. Arrive sa soirée hier. Donc, l'accès au sanctuaire, le tabernacle nous a parlé de la maison de Dieu et de l'ensemble de ses rachetés représentés par les haies, les tapis, les 12 pins, les piliers, les tentures du parvis, les types, ce qui était un type, à ce moment-là encore incomplet, du mystère. qui devait être pleinement révélé par l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ. Amen, hein? Dieu, en partant, il savait ça, hein? Tout de suite, quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Et c'est la même chose pour nous. Il nous fait sortir de l'Égypte. Quand on est sauvé, on sort de l'Égypte, on sort du monde. C'est exactement la même chose. C'est le même cheminement. C'est pour ça qu'étudier ça, c'est béni pour nous autres, parce que ça vient vraiment nous enseigner. Nous affermir aussi dans notre foi. Puis ça vient nous affirmer dans notre marche aussi, avec le Seigneur. Donc, mieux encore, le tabernacle nous a présenté la révélation de Dieu en Christ dans toutes ses parties, de l'arche jusqu'à la porte. Ça parle de Christ. On a vu Christ dans tous les détails. Est-ce que puisse-t-il être davantage la méditation de nos cœurs? N'importe qui en Israël pouvait pénétrer dans l'enceinte du tabernacle par la porte large. Pas la porte trune, la porte large. Dont aucun chérubin ne barrait l'accès. Voulez-vous pogner chérubin, ça? Toi, tu l'as-tu pogné, oui? Donc, la première porte, c'était Jésus. T'sais, il n'y en avait plus de chérubin de rentrer dans la présence de Dieu. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'amener un sacrifice sur l'autel. Puis tu pouvais rentrer. Maintenant, le sacrifice a été fait. Fait que l'accès est libre pour rentrer dans la présence de Dieu. Et par la croix, le pécheur peut maintenant, en mettant foi à ce que Dieu a fait, entrer dans la présence de Dieu. C'est juste par la foi qu'il va rentrer, il n'y a rien d'autre à faire. Jamais plus, et puis ses péchés sont pardonnés, puis ça dit, jamais plus Dieu ne s'en souviendra. Il ne verra pas dans nos péchés, il ne nous voit pas dans nos péchés, il nous voit dans ce que son Fils a fait. Devenu sacrificateur, là, on est devenu sacrificateur, là, quand on est rentré là. Le croyant trouve à la cuve d'airain. L'as-tu écouté, ça, la cuve d'airain, quand même? Les miroirs des femmes?
Oui,
la croyant trouve à la cuve d'airain ce qui répond aux souillures de la route, ce qui correspond aux souillures de la route. Puis, entrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint, ne forme plus qu'un aujourd'hui. Là. Il n'y a plus de lieu saint, de lieu très saint. C'est le lieu très saint, là. La présence du Saint-Esprit. Sauf que, on a quand même, nous, on a dit que notre lieu saint, c'était notre âme. Puis le lieu très saint, c'est le Saint-Esprit. Hein? Si on veut se faire une image de ça, dans le tabernacle. C'est que nous, là, ici, ça, c'est la tente. Hein? Le corps, c'est notre tente. Notre âme, c'est le lieu saint. On a vu tous les enseignements du lieu saint, la lumière qui éclaire la parole, les prières, hein? La nourriture, renouvelée une fois par semaine, les sacrificateurs viennent se nourrir, c'est la parole, hein, que ça nous préfigurait. Et puis, le lieu très saint était juste l'autre côté des prières, de l'autel avec les cornes, hein? C'était l'autel où il était juste l'autre côté. Donc, ça nous connectait dans le lieu très saint. Donc, ça nous parle beaucoup. Devenu sacrificateur, le croyant trouve à la cuve des reins, on le dit. L'enfant de Dieu trouve la nourriture et lumière. La conscience d'être présenté devant Dieu en Christ, vous êtes en moi, dans Jean 14, 20. À l'autel d'or, il peut adorer et faire monter ses prières. Si je me souviens bien, c'est dans Apocalypse qui dit que les prières, c'était un sacrifice de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, les prières des saints. C'était un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Ses enfants hein, qui y parlent, c'est que lui, c'est le béni. Le voile est déchiré, puis on peut contempler la beauté, la gloire de celui dont l'arche n'était qu'un ombre des choses à venir. Maintenant, on va voir le tapis, la tente et les couvertures. Marilyn, tu vas nous faire une révision de ça. Non? Donc, les 10 tapis, 4 coudées sur 28, ça formait un ensemble de 40 sur 28. Les tapis sont faits de même fil que le voile. Alors que pour le voile, le bleu vient d'abord. Pour les tapis de fin coton est mentionné en premier. Enfin, les tapis représentent Christ selon la pensée que le tabernacle nous parle de Dieu manifesté en Christ. Ils représentent aussi le croyant tel qu'ils sont vus en Christ, rendu agréable dans le bien-aimé. Alors que ici, il s'agit des croyants, c'est avant tout la justice pratique dans leur marche qui doit les marquer. La justice pratique. Alors que pour Christ, c'était en première ligne son caractère céleste qui était mis en évidence. Pour nous, ça veut dire que notre marche doit être faite dans la justice. Dans la pratique, il importe que les croyants manifestent quelle est leur position dans le sanctuaire en reproduisant le caractère de Christ autour d'eux. Si nous souffrons avec lui, ça va occasionner qu'on va souffrir avec lui. Quand on va confesser Christ autour de nous, ça va occasionner qu'il va y avoir des souffrances, mais c'est aussi dit qu'on va régner avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc, ça montre la réalité du fait que Dieu nous a unis ensemble. Si l'ennemi a réussi à disperser et diviser certains chrétiens, certaines églises, quant à leur témoignage pratique sur la terre, il n'en reste pas moins qu'en Christ et pour Dieu, ils sont un. Ils sont seulement un, comme l'ensemble des tapis joints un à l'autre par des agrafes qui formaient un seul tabernacle. Exode 26:6. La tente, maintenant on va voir la tente. Par-dessus le tabernacle, c'était une tente de poils de chèvre qui faisait protection contre toute influence des souillures extérieures. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de lumière du tout qui venait de l'extérieur. Il n'y avait rien qui fallait qu'il vienne du monde. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était la lumière de Dieu seulement. Et puis ça nous donne un exemple pour nous qu'on ne doit pas laisser rentrer rien du monde. Ça doit toujours être la pensée de Dieu, puis la parole de Dieu à laquelle nous sommes connectés. Donc, le poil de chèvre, ça parle de la séparation pour Dieu. Pourquoi? Parce que les vêtements de prophètes étaient en poil de chèvre. Souvenez-vous. Les prophètes, c'était des vêtements de poil de chèvre. Ça veut dire séparé pour Dieu. C'est lui était mis à part pour Dieu. Et nous, ça doit être la même chose aussi. En tant que sacrificateur, on était mis à part. Et puis, on pourrait partir sur un autre message, là, mais on sait que l'amitié du monde, c'est une amitié contre Dieu. Et on peut pas être ami du monde puis être ami de Dieu. Tu peux pas. Invasible. Ça marche pas. Donc, mais on ne sait pas le but de notre prédication, de notre message ce matin. Donc, il ne peut y avoir réalisation du caractère de Christ, c'est-à-dire les tapis, sans la séparation du monde avec le monde. C'est pour ça qu'il y avait une séparation avec le monde. Les femmes avaient filé le poil de chèvre. On voit ça dans le chapitre 35-26. Chaque croyant, même le plus humble, est appelé à réaliser pratiquement cette séparation du monde dans sa vie, de tous les jours, dans sa maison, dans son travail, dans son comportement. Faut faire une nuance. On ne dit pas qu'il faut s'enfermer puis plus aller dans le monde. C'est pas ça. Ça dit qu'on ne doit plus faire de compromis avec le monde pour sacrifier des choses de Dieu. Ce qui doit être en premier pour nous, parce qu'on est croyants, c'est les choses de Dieu. Ensuite, on est appelé à être des lumières dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller dans le monde. Sans ça, comment Dieu ferait pour... Il ne veut pas qu'on se sépare puis qu'on se mette dans notre bulle, tu sais. Les sacrificateurs, il y avait toujours les pieds dans le sable, hein? T'entends? Tout est en or, tu sais, dans le tabernacle, puis tout est, il y avait les pieds dans le sable. Puis ça, c'est un symbole, ça nous symbolise qu'on est encore ici, qu'on est appelé encore à aller dans le monde pour parler, pour être des serviteurs de Dieu, finalement. Amen. Donc, si chacun est là où il est placé, il file son poil de chèvre. Il va faire la séparation de la maison de Dieu, d'avec le monde sera réalisé. Et puis, et si c'est mal tissé, bien, il va passer des choses au travers. Il faut que ça soit tissé serré. Notre liberté en Christ, ce n'est pas pour endosser le mal. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel nous enseigne à dénoncer le mal et de s'en éloigner. Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions se rouler dans la boue. Ensuite, on va voir la couverture de peau de tesson. C'est quoi des tessons?
Dauphins.
Des dauphins. Hein, c'est fait. C'est imperméable. Et puis, ça, c'était la couverture extérieure. C'est la seule chose que tu voyais. Quand tu regardais le tabernacle, il avait l'air de rien. Ça avait l'air d'une tente, tu sais, bien ordinaire. C'est quand tu rentrais à l'intérieur. La beauté est à l'intérieur. Et ça nous donne une image aussi. Nous, en tant que chrétiens, là, c'est pas le flashing c'est pas les gros shows, c'est pas la grosse popularité, c'est pas ça que Dieu nous appelle du tout. Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Christ est venu, il avait l'air de rien. Puis c'est marqué dans Isaïe qu'il n'y avait rien pour attirer les regards, cet homme-là. Il n'y avait rien de spécial, vraiment, pour attirer les regards. Et puis, c'est vraiment, aujourd'hui, on voit que l'homme a pris la place, et puis l'homme veut tellement se mettre entre Dieu et les hommes, qu'il veut tellement se mettre à la place sur un podium, qu'il veut que les gens l'adorent. Puis ça, c'est notre partie, notre nature pécheresse qui est comme ça. Elle veut elle veut se faire adorer. Regardez-moi, adorez-moi, applaudissez-moi. Mais il n'y avait point d'apparence en lui pour le faire désirer. Ésaïe 53, 2. Christ était ça. Et puis nous autres aussi, ça doit être ça. Les peaux de tessons nous parlent aussi de la vigilance indispensable pour éviter les pièges et déjouer les attaques de l'ennemi. Ça doit être hermétique. La peau de tesson, c'était hermétique. Il n'y avait pas de porte, hein? Souvent, on va entendre ça, cette expression-là, ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire laisse pas rentrer rien. Ferme cette porte-là. Sans ça, si tu laisses rentrer, l'ennemi est rentré. Maintenant, il est dans la maison. Mais si tu as fermé la porte, il peut pas rentrer, il peut pas faire de dommages. Mais on sait que s'il rentre, on sait quel dommage il peut faire. Hein? Et surtout des enfants de Dieu. Les autres, ça ne l'intéresse pas, lui. Ils sont à lui. C'est des enfants de Dieu qui peuvent faire du grabuge. Donc, ça parle de la vigilance. C'est comme une protection dans notre marche. De faire attention de ne pas se laisser entraîner par des amis mondains ou des circonstances, des situations où, sauf intervention particulière du Seigneur, on ne peut que le déshonorer. Ensuite, on a vu les haies. Hein? Souvenez des haies? Les haies, c'était les planches de bois. Une coudée et demie. 10 coudées de long pris dans un seul arbre. Puis l'arbre, là, il avait été façonné, hein. Il a fallu qu'il soit coupé, il a fallu qu'il soit travaillé, il a fallu qu'il soit vraiment... Après ça, il l'a emmené dans la maison de Dieu. Ça, oui, il y a une autre image, là, pour nous. Nous, on est les haies. Donc, si on pense que l'arbre, il a été coupé, il a été travaillé, il a été façonné avant que Dieu le plante dans sa maison. Ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu fait dans nos vies pour faire des choses qu'il veut traiter dans nos vies, puis il voit à la mesure que nous, on est capable d'accepter qu'il traite ces choses. C'est une autre belle image qu'on voyait. On a vu qu'une planche toute seule dans sa base, dans le vent, au désert, hein, elle va tomber, c'est sûr. Mais là, Dieu, il s'est arrangé pour que ces planches-là, ils doivent être liées ensemble. C'est pour ça qu'on est ensemble ce matin. Mm-hmm. Pour l'union, il y avait cinq barres, le chiffre 5, je vous laisse en déduire. Il y avait 5 barres qui les reliaient ensemble. Puis il y en avait celle du centre, elle allait jusqu'au bout. Puis il y avait une figure qui disait que ça représentait le Saint-Esprit. Un des commentateurs. Donc, c'est ce qui est pour les haies. Ensuite, on avait vu le voile. Selon Hébreux 10, 20, le voile séparant le lieu saint du lieu très saint représente Christ venu en chair. C'est marqué textuellement. De toute façon, tout représente Christ là, dans le tabernacle. Il n'y a rien qui ne représente pas Christ. Là. Donc, le bleu faisait que le caractère de celui qui était venu du ciel, le pourpre, celui qui a souffert, recevra la domination universelle, donc le roi des rois. Et ensuite, l'écarlate, la couleur du sang rappelant ses souffrances, mais aussi sa gloire comme Messie sur Israël. Le fin coton, son humanité et sa marche parfaite. Puis le caractère de Jésus qui nous présente la façon particulière, les quatre évangiles, les quatre piliers qui étaient mis en avant, qui tenaient le voile. Là. Sur ce voile-là, il y avait deux chérubins, vous vous souvenez? C'est les mêmes chérubins, ben, il y avait cette image-là aussi dans le jardin d'Éden, hein. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris l'arbre de vie, puis ils ont mis deux chérubins là-bas, à l'entrée. Fait qu'il dit, il n'y a plus personne qui va rentrer là avec sa nature déjà. Parce que quand tu rentres là, c'est l'éternité. Tu as la vie éternelle. Donc, il fallait pas que tu rentres là avec ta nature. C'est pour ça que nous non plus, on peut pas rentrer dans la présence de Dieu quand il y a quelque chose qui n'est pas confessé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans le péché continuellement, puis ils ont continué d'aller dans le péché. Ils s'exposent à une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils continuent. Ils lisent la parole, mais l'esprit n'est pas là. C'est la mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, c'est important. C'est important d'aller faire son examen de conscience. On va le voir aussi dans la cuve des reins, hein, quand on se lave les mains. On se voit dans la cuve. Et puis, t'as fait avec des miroirs, un peu. Il est tellement comique, le Seigneur, là, la façon qu'il fait ses affaires. Pas comique, mais grand, je veux dire. C'est tellement subtil, c'est tellement bien fait. Donc, le voile cachait l'arche, mais il était déchiré de haut en bas quand Jésus est mort sur la croix, qui donnait un plein accès. Ensuite, l'autel des reins, le premier objet rencontré quand tu rentres de l'extérieur, puis tu traverses la porte du parvis, la première chose qu'il y a, c'est quoi? L'autel des reins. Vous voyez-vous ça dans votre tête, là? Le parvis, il y avait le tabernacle, il y avait la cuve, il y avait l'autel, puis la porte des eaux. La première affaire, c'est la croix. Donc, si on n'a pas la croix, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Ça achève, il en reste à peu près pour une demi-heure. Ça ne sera pas long. Donc, la dimension, on ne reviendra pas là-dessus, mais on sait que c'est un type de Christ, là, sur lequel le jugement le jugement est tombé sur lui. Excusez, mais c'est comme arracher l'écouteur, là. Donc, le but de l'autel des reins était le lieu où on offrait des sacrifices pour répandre le sang qui seul fait la propitiation pour l'âme. Dans Lévitique 17, 11, c'est ça que ça disait. Il fallait qu'il y ait une effusion de sang pour la propitiation. Rendre l'âme propice devant Dieu. Ça, c'était une préfiguration encore, là. Donc, Hébreux 9, 22 dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Puis ça me rappellerait toujours que on était allé dans un chalet, je pense que c'était au Cedar Lodge. Puis il y avait ce verset-là sur le mur, vous allez me dire, ils étaient donc bien comiques, t'sais. Puis moi, je lis le verset. Puis Paul côté, t'es à côté de moi. Et je lis le verset, puis c'est marqué sans effusion de sang. Puis là, je le pointe vers le collègue. Puis je fais semblant de le frapper, tu sais, parce que c'est marqué sans effusion de sang, il n'y aura pas de rédemption. Tu sais, c'est quelqu'un qui comprend pas la parole. Là, il n'a pas fait le lien. Tu sais, il veut rendre ça. On est de même quand on arrive dans la parole, là, tu sais. On comprend pas ce que le Seigneur veut dire. Fait que, on analyse ça avec notre chair, tu sais. Mais c'est une image comique vraiment de comment, quand on n'est pas, c'est pas révélé par l'Esprit, comment on peut pas comprendre ce qu'il y a là. Mais ça me fait bien sourire. À chaque fois que je lis ce verset-là, maintenant, je me vois que mon Paul t'a crampé, tu sais, puis moi aussi. Donc, ensuite, on a vu le parvis. Hein? Le parvis. Ça nous parle du témoignage extérieur de l'Assemblée des Saints envers le public. Le parvis, c'était tout blanc, hein, du fin coton blanc, avec des crochets rachetés. C'est que c'est important l'image que nous, on donne aux gens qui sont dans le monde, parce qu'on est ces gens-là qui sont autour de la maison de Dieu. Et puis, il y avait plein de figures encore, je ne sais pas si on va toutes les voir, mais on les a vues, là. Mais en gros, ça représentait la grande assemblée des croyants, l'enceinte blanche, soutenue par des piliers d'airain, reposant sur des bases d'airain, nous parle en particulier de le fait que la maison de Dieu et son parvis doivent être nettement séparés de toute l'ambiance extérieure. Il y a une séparation qui est faite. La blancheur des tentures montre qu'il ne devait entrer dans cette enceinte aucune chose souillée. La vie pure et sans tache de Christ dans ce monde, qui, dans sa marche, a répondu pleinement à tout ce que la justice de Dieu exigeait par les reins. Les bases étant les reins. Si je ne me trompe pas, les chapeaux étaient en argent. Je pense qu'il y en a un dans le texte. Là. Les bases étaient en airain, les chapeaux étaient en argent, puis les barres étaient en argent. Le témoignage public extérieur de justice pratique, le coton, nous parle de ça. Référence à Apocalypse 19:8. Les croyants fondés sur le jugement d'eux-mêmes et disposés, s'il le faut, à souffrir, pour accompagner la volonté de Dieu. Unis en un, tous par la rédemption des baguettes d'argent. Et puis, c'est seulement qu'une petite révision. Là, on peut pas aller dans le détail, parce que là, on referait tous les messages. Mais c'est juste pour nous rappeler toutes les images. Ensuite, il y avait la porte. La porte. Qu'est-ce que ça vous fait penser, la porte? C'est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Hein? Ouais, JP, il dit, faut enfermer des portes aussi. Ouais, on a parlé de ça. Il y a des choses qui se présentent à nous, puis il faut fermer les portes parce qu'ils sont là pour nous faire du dommage. La porte du tabernacle qu'il y en avait était large, hein, elle avait 20 coudées. Ça voulait dire, viens, venez. Il y a pas de, la porte est ouverte, venez dans la présence de Dieu. Et puis, ça avait, elle portait les mêmes couleurs que le voile dans le tabernacle. Ça nous parle de Christ encore, dans sa grâce, ouvrant largement ses bras pour accueillir quiconque veut entrer. Christ est la porte, Jean 10, 7. Aucun chérubin n'était sur ces rideaux-là. Il n'y en avait pas de chérubin qui bloquait l'entrée. Tout le monde pouvait entrer dans la, sauf dans le jardin d'Éden, on sait qu'il y avait Dieu avait placé des chérubins. On comprend pourquoi. À partir du moment où l'homme a reçu une nature déchue, il dit, on peut plus le laisser rentrer dans l'éternité. Il va venir corrompre l'éternité. Comprenez-vous? Avec sa nature, il va venir corrompre l'éternité. Il peut pas entrer là. Il faut que cette nature-là soit vaincue avant qu'il puisse entrer. Puis ça, c'est Christ qui l'a fait. C'est pour ça qu'on rentrera pas avec nos tentes. Hein? Dans la présence de Dieu, dans l'éternité, on rentrera pas avec nos tentes. On va rentrer avec notre âme. Qui, elle, va avoir été lavée, justifiée, glorifiée. Tu sais, on le sait. Bon. OK. Fait que la porte était large et puis il y a une seule condition qu'il faut pour entrer la porte, il fallait un sacrifice. N'importe quel Israélite pouvait rentrer, mais il fallait qu'il amène un sacrifice. Puis ça, ben, ça nous parle du sacrifice de Jésus. Nous autres, on peut pas rentrer si on n'a pas, on s'est pas approprié le sacrifice pour nous. Hein? Ensuite, on est rendu à l'autel d'or. Ou l'autel des parfums. Ça ici, ben, comme je vous dis, avant ça, c'était les sacrificateurs, mais là, on va le voir après. Là. Mais la prochaine chose que le Saint-Esprit donne, avant ça, c'était les sacrificateurs. Fait qu'on va le voir la semaine prochaine, mercredi prochain. L'autel d'or, c'était un témoin de nos prières qui doivent monter continuellement vers le Père comme un sacrifice de bonne odeur. Ou un parfum de bonne odeur. Les deux sont là, hein? L'autel était juste devant le lieu très saint. Juste à côté. Juste en avant. Puis ta prière, elle connectait à la présence de Dieu. C'est en image pour ça aussi. Donc, il y avait des cornes. Sur chaque coin, il y avait des cornes. Les cornes, dans la Bible, c'est un symbole de force. Donc, dans la prière est notre force. Dans la prière, nous allons être fortifiés. Dans la prière, nous allons être secourus dans nos besoins. Hein? Donc, ça faisait partie de nos... Aaron, faisant partie de ses fonctions sacerdotales, devait réapprovisionner l'encens chaque matin. Il y en avait le matin, mais il y en avait le soir. C'est continuel. C'est pour ça qu'il dit prier continuellement. Prier sans cesse. Prie tout le temps. Parce que ta force est là. Elle est dans la prière. Essaye pas avec ton gaz, ça marchera pas. Mais avec la prière, ça va marcher. Donc, les cornes, on les a vues. Il faisait la même chose rendu le soir. Et la signification était symbolique, là, puissante dans sa présentation et celui de la prière. Le moyen que le Père nous a donné pour être secouru dans nos besoins, mais aussi pour demander des choses qui glorifieront notre Seigneur. Parce qu'il dit, il n'y a rien que tu ne demanderas pas pour la gloire de mon Fils, je te donnerai pas. Donc, si tu pries et tu demandes quelque chose qui va faire pour la gloire de Jésus autour de toi, c'est sûr que tu vas l'avoir. Mais nous autres, souvent, on arrive avec notre liste d'épicerie, hein? Quand on prie. Donc, important, très important. Ensuite, la cuve des reins. La cuve, vous êtes tellement drôle quand j'ai étudié ça, c'était drôle. Le dernier élément du mobilier que nous considérons, la cuve de reins, il s'agissait d'un symbole de la sainteté de Dieu et tout ce qui constitue le système sacrificiel. Le Seigneur, ça, c'est la présence. Savez-vous, c'est quoi, là, quand on parle de la cuve de reins? Qu'est-ce que ça vous fait penser dans le Nouveau Testament? Y a-t-il un événement qui vous fait penser, qui vous rappelle la cuve de reins? Je vais vous donner un indice. Ça veut dire que dans le Nouveau, ça, c'était l'Ancien. Puis la cuve de reins, là, surtout quand Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a donné comme exemple qui symbolisait la cuve d'un rein? Dans un geste qu'il a fait avec les apôtres. Il a lavé les pieds des disciples. Et puis les sacrificateurs, Carmen a dit, c'est Jésus qui lave les pieds. Puis les sacrificateurs, avant de rentrer dans le lieu saint, puis c'est pas des jokes, là. S'ils ne se lavaient pas les mains et les pieds pour se purifier, ils étaient morts. Quand ils rentraient, pas dans le lieu très saint, juste dans le lieu saint. Parce qu'ils étaient sacrificateurs, choisis par Dieu pour servir Dieu. C'était très important pour eux qu'ils passent à la cuve de reins, puis qu'ils se lavent les mains et les pieds avant de rentrer dans le lieu saint. Encore une fois, on voit que Dieu, il n'y en a pas de compromis avec le péché. Tu veux pas rentrer avec le péché dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de place. Dieu ne peut pas être assis à la même table que le péché. Voyons. Ça ne se peut pas. Il faut que. Je ne vous dis pas que de ne plus pécher jamais. C'est pas ça que je dis. On est des pécheurs. On va pécher encore. Mais il y a un processus de purification. Avant de rentrer dans le lieu saint, c'est de se laver les mains et les pieds. Puis ça, pour nous autres, c'était de confesser nos péchés, les abandonner, se relever puis continuer. Et puis ça, c'est important. C'est pour ça qu'on revient souvent là-dessus, parce que c'est important pour nous pour être capable d'avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Donc, c'était drôle parce que les cuves étaient faites avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. On voit ça dans Exode 38:8. Ces miroirs, ils étaient faits d'airain poli. C'était de l'airain, poli. Et puis, c'était des objets d'ornement et qui incitaient à la vanité, à la coquetterie. Puis le Seigneur, il les avait repris. Après l'affaire du veau d'or, le Seigneur a dit, vous êtes un peuple au cou raide. Ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. Ça, c'était dans Exode 38:8. Et puis, Exode 33, versets 5 et 6. Et puis, les fils d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements à la montagne de Horeb. Donc, on voit que le Seigneur il a pris ces miroirs-là pour faire la cuve de reins. Encore une belle représentation. La cuve, c'est quoi? C'est de faire son auto-examen. Le miroir représente, est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir avec le Seigneur, puis de faire le tour, puis de dire, bon, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai à confesser aujourd'hui? Ou, des fois, on le sait, puis des fois, on le sait pas. Quand on est séduit, on le sait pas. On ne saura pas. Il faut demander au Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qu'il faut que je confesse, tu sais, avant de rentrer dans la présence de Dieu? Et puis, le Saint-Esprit fidèle, il vient nous visiter. Moi, je demande toujours pardon au Saint-Esprit aussi. Parce que quand j'ai péché, je l'ai amené avec moi. Je me dis tout le temps, ça doit être épouvantable. Quand que je m'en vais dans le péché, que toi, tu as à subir ça parce que lui, il est saint. Lui, il peut pas être en présence du péché. Fait que je lui demande toujours pardon aussi à lui de l'avoir traîné là-dedans et d'y avoir fait subir ça, finalement. Ensuite, on avait vu l'huile sainte puis l'encens de l'autel. On avait vu que Dieu a donné une recette. Il a donné exactement la recette pour faire l'huile puis l'encens. Vous regarderez ça dans les Écritures. Je ne vais pas les verser ici, là. Mais c'est après ça, là. Après Exode 30, versets 17 à 21, tout de suite après, il donne la recette pour l'huile sainte, mais il donne aussi un avertissement. Ça ne doit pas être utilisé pour des fins personnelles. Ça doit être utilisé seulement pour le culte. Donc, et pourquoi qu'il a fait ça? Parce qu'il y a des gens sûrement qui ont voulu se servir de l'huile, parce que c'était une chose très sainte, qu'il disait. Puis tout ce que ça touchait, c'était sanctifié. Il était sanctifié avec ça. Donc, il fallait pas que les gens l'utilisent pour des fins personnelles, il fallait que ça soit utilisé seulement pour le culte. Et puis, la recette pour faire l'huile qui a été utilisée pour le service d'onction, pour la consécration des sacrificateurs. C'est quelque chose. Et puis, il y avait l'encens aussi qui devait être brûlé sur l'autel. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, vous irez voir ça. Ce qui termine notre révision pour la tente d'assignation. Ça donne des... Il y a plein d'images qui nous viennent quand le Seigneur nous donne... C'est pour ça que moi, les gens qui disent, quand les gens disent l'Ancien Testament, c'est plus bon. Vous autres, vous connaissez pas Dieu certain pour dire des affaires de même. Hey, c'est l'ombre des choses à venir, puis c'est plein de choses qui nous parlent pour nos vies là-dedans. Là. Tu sais, plein de secrets que Dieu a crachés. Pas crachés, mais cachés. Mais c'est ça, on veut pas cracher dessus.
Hein?
Fait que c'est plein de belles images, de pépites qui nous donnent des outils pour notre vie chrétienne. Amen. Fait qu'on va prier pour remercier le Seigneur. Ensuite, on va faire un appel. Parce qu'on néglige pas de faire un appel. On sait jamais qui écoute. On sait jamais comment Dieu va utiliser ce qu'on a fait. Parce que c'est pas nous, hein. Nous, on est des serviteurs. On est des vases. Puis dans la maison, il y a des vases vides, puis il y a des vases d'honneur. Mais nous, on veut être des vases d'honneur. Puis, Seigneur, on veut te prier, te remercier. Puis on t'a demandé de faire de nous des vases d'honneur, de faire des vases d'or, parce que pour nous-mêmes, on peut rien faire, mais toi, tu peux le faire. À travers nous. Puis on te demande de faire ces choses dans nos cœurs. De nous rendre des vases d'honneur, Seigneur. De faire de nous des vases d'honneur pour qu'on puisse être utile dans ton plan. Pour ta gloire, pour la gloire de ton Fils. On veut te dire merci, Seigneur, pour toutes les images que tu nous donnes à travers ta parole. Merci parce que c'est un privilège qu'on a. C'est vraiment de pouvoir connaître ces choses, c'est un privilège pour nous. Puis, Seigneur, on le mérite pas. Puis c'est par ta grâce qu'on peut les avoir. Et puis, merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu caches, que tu nous révèles, qui sont cachées pour nous, et que tu nous révèles à travers nos études. Et puis, on veut vraiment te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu aimerais avoir cette relation avec le Seigneur, rentrer dans cette relation éternelle, qui va durer éternellement, mais la Bible dit qu'il y a trois choses, vraiment, trois choses qui sont mentionnées dans la Bible. Premièrement, que l'humanité est séparée de Dieu. Dans Romains 3, 23 et dans Romains 6, ça dit que l'homme a été séparé de Dieu. On sait que c'est dû à une mauvaise décision qui a été prise dans le jardin d'Éden, et puis qu'il y a une condamnation qui pèse sur l'humanité présentement. Et puis, par contre, on voit dans Jean 3, 16 que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1, 12, ça dit à celui qui a cru et qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que tu n'as rien à faire, mais que tu as quelque chose à recevoir. Premièrement, tu dois croire que Jésus-Christ... Premièrement, tu dois admettre que tu as besoin d'un sauveur. Que tu peux pas te sauver par toi-même. Tu dois croire ce qui est écrit dans la Bible, par la foi, que tu ne peux pas te sauver par toi-même. La Bible dit que par nos œuvres, il n'y a personne qui peut te sauver. Qu'il n'y a rien que tu vas faire pendant ta vie qui va faire que ça va, qui vont t'ouvrir les portes du ciel. Il y a seulement une chose qui peut t'ouvrir les portes du ciel, c'est que tu reçoives le cadeau. Que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Et que tu le prennes comme ton partenaire de vie, comme ton Seigneur, qui va te donner une nouvelle vie. Et puis, si tu es prêt à faire ce choix aujourd'hui, pour laisser entrer Jésus dans ta vie, on va te diriger dans une prière. Et puis, tu n'as qu'à prier avec nous. Et puis, si tu fais cette prière avec ton cœur, parce que Dieu regarde dans ton cœur, ben aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur, je veux te prier pour les gens qui ont fait cette prière à la maison, que tu touches leur cœur maintenant, puissamment de ton amour, que tu leur envoies des ouvriers, Seigneur, qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus compris. Amen. Merci beaucoup.